La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. Kleeneximagerie.com.
3 Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Bonjour Pierre-Yves.
Salut.
Il y a des employés de Starbucks qui vont être bien contents de savoir, ben en fait aux États-Unis, ce ne sera pas ici, là, mais qui vont avoir une hausse de salaire.
Oui, et en fait, je vais parler du débat sur la rémunération. Ben c'est allons-y. Que dans un marché de concurrence pure et parfaite théorique de la vie, on parle souvent de dire ben le salaire c'est la juste valeur marchande de ce que tu vaux, etc. Bon, dans un marché ouvert. Et aux États-Unis, on commence à réaliser quelque chose. Il y a le débat sur le salaire minimum comme il y a ici, mais Starbucks se rend compte que on doit augmenter le salaire. Là, c'est pas parce que Starbucks veut absolument couper ses profits. Starbucks fait ça parce qu'ils se rendent compte que le recrutement des employés est compliqué. D'ailleurs, au Québec, on vit dans certains endroits la même chose. J'ai parlé à des gens à un moment donné qui disent, ah, tu sais, des franchisés, par exemple, d'un AEW qui se lancent dans un AEW, mais que un peu plus en région qu'à Montréal, puis là, pas capable de trouver du monde. Et là, ton franchisé est obligé de travailler dans son restaurant parce que avant la pandémie, on avait des problèmes comme ça au Québec. Et donc, Starbucks dit, OK, on va augmenter le salaire des baristas de 10%. On va donner plus de salaire à ceux qui entrent. Et donc, on envoie une image de bon citoyen corporatif, alors que dans les faits, c'est un excellent citoyen corporatif parce qu'il doit uniquement attirer. C'est toujours ça. Et après ça, la capacité d'augmenter le salaire des employés, ça dépend toujours du type de magasin. Je te donne un exemple. Un magasin qui s'opère avec un seul employé, que tu l'augmentes d'une pièce ou deux de l'heure, ça change pas grand-chose. Mais un autre type de magasin ou d'entreprise qui fonctionne où par exemple les employés représentent 70% des coûts opérationnels, là t'es ailleurs. Alors, on ne peut pas tous jouer aux citoyens corporatifs, disons modèle. Quand notre modèle d'affaires ne permet pas de refiler la facture au client. Et quand on regarde Starbucks, ben on voit que, bon, évidemment, la pandémie a frappé fort, donc le trimestre terminé à fin juin n'est pas vraiment représentatif de Starbucks. Mm. On a fait des pertes. Mais normalement, comme par exemple en 2019, le trimestre équivalent, on faisait par exemple, tu sais, 1,4 milliard de bénéfices nets pour un trimestre. Donc, tu vois comment il y avait de l'argent qui entrait là, donc c'est normal que tu redistribues si tu veux être capable de recruter. Mais au Canada, on va fermer des cafés Starbucks, on en a fermé, on annonçait 200 en juin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va plus orienter vers du pour emporter, mais tous les cafés qui sont orientés dans les grands centres-villes, c'est la grande question, qu'arrivera-t-il? Parce que je sais pas à Québec qu'est-ce que ça a l'air vos cafés, mais nous, au centre-ville, tu entres dans un Starbucks et t'es servi immédiatement en heure de pointe. C'est ça qui arrive. Il n'y a personne au centre-ville.
Écoute, ça, c'est vrai.
J'allais me stationner l'autre jour au centre-ville. J'étais arrivé en auto, pas d'heure de pointe, stationné dans un parc comme être. Je vais juste te donner une idée que ça se fait pas d'habitude. Donc, c'est vraiment spécial ce qu'on est en train de vivre. Mais Starbucks est un exemple de montrer que même si on parle de salaire minimum, parfois, il faut que tu aies au-delà du salaire minimum pour être capable de trouver des employés.
Mais le succès de Starbucks à la base, moi je
c'est le
trouve assez, je sais, mais je trouve ça incroyable de payer un café 5 piastres.
Écoute, maintenant c'est rendu pas mal le standard ici, je peux te dire, dans les cafés seconde vague, troisième vague, puis xème vague. Mais ce qui est intéressant de Starbucks, c'est qu'ils ont pris le café, tu sais, à l'époque, le café italien, le petit café, on avait une vision plus ancestrale du café. Starbucks a amené le côté jeune, cool, avec son café Starbucks. C'est très Sex in the City, Friends style. Tu comprends ce que tu veux dire? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'arrive au centre-ville, je me prends un café, donc ça fait partie comme, même, il fallait que tu montres que t'étais brandé, même ton café. Et parce que c'est pas un café au goût très recherché, mais c'est une marque. Ça fait partie. C'est comme le Apple des cafés. Ils ont réussi à convaincre les gens que ça faisait partie de ce qui les définissait, où ils buvaient le café et comment c'était fait. C'est incroyable, hein?
Vraiment.
Toi, tu bois pas de café à 5
$ jamais? Ah non, jamais. Ben, parce que à la base, le goût du café Starbucks, sincèrement, il vient pas me chercher. Ça goûte vraiment différent que le café Starbucks.
Pas
le
pas...
Non, mais ben, non, les boissons à citrouille, moi, je suis pas tant.
J'adore ça.
Ah,
moi,
oui?
Les boissons, si tu mets trop de sucre dans ton café et des essences parce que t'aimes pas le café, prends un quick à la place.
Ben, c'est ça, ça, c'est un fait.
Non, mais il y a deux circonstances. Moi, dans la vie, en général, je bois du café noir très amer, mais quand je bois un pumpkin spice latte, je veux qu'il goûte le moins de café possible.
Pumpkin spice latte.
Ben, oui.
Non, ce mot est très Instagrammable par rapport à ça. Il est vraiment la clientèle cible pour le pumpkin spice latte.
Si tu rationalises ça moins cher, prends un café noir, rajoute du lait générique et râpe un déodorant Old Spice.
Encore un
hater. On va rendre hommage au notaire aujourd'hui.
Oui, je veux pas rendre hommage, mais je veux qu'on en parle. Parce que dans les finances personnelles, je trouve que le Québécois est cheap avec son notaire. Je t'explique. Les notaires, présentement, si vous le savez pas, ils sont dans un dilemme de guerre de prix, guerre de territoire, de concurrence. Et donc, il y a des jeunes qui commencent pour faire leur place, baissent leur prix, travaillent dans leur sous-sol. Et là, il y a des notaires qui travaillent fort et qui ne couvrent pas assez leurs frais. Et le problème, c'est contrairement à d'autres services, le notaire, les gens, c'est un acte. Par exemple, je signe un prêt hypothécaire, donc je m'en vais à m'acheter une maison, je vais voir le notaire. Et là, le notaire me dit, ben, pour une maison, c'est, mettons, 1 500 $. Alors là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des notaires. Toi, ça me charge combien? 900. Toi, c'est 1000. Toi, c'est 1 500. Toi, c'est 2000. Alors, ils magasinent des prix. Alors que, disons, pour faire tes impôts, c'est des heures ou ta tenue de livre. L'avocat te donne des services en fonction de tes besoins. Mais le notaire, on dirait que les gens voient ça comme une transaction. Alors, tu payes ton courtier, dans le fond, qui vend ta maison, 4-5% de commission de ta maison. Donc, si ta maison vaut 400 000, tu viens de donner 20 000. Mais t'arrives chez le notaire puis tu le gosses pour 100 piastres. Tu comprends? Et ça, c'est une anomalie de logique parce que...
C'est vrai, hein?
Oui, le notaire va protéger tes droits, va regarder si tout est bien défini, va s'assurer qu'il n'y a pas des ayants droit quelque part qui n'ont pas été consultés, va s'assurer que les titres sont conformes. Il va te sauver la vie légalement. Il va faire la job de vérification que tu faut absolument faire. Et l'autre point, c'est que le notaire a un travail à faire, c'est pas en fonction de la valeur. Et là, je donne un exemple où les gens comprennent pas. T'achètes un terrain 25 000, ça te coûte un certain prix. T'achètes une maison qui va coûter 500 000, ça coûtera pas le même multiple. Il va y avoir quelques piastres de différence, mais le travail est là pareil. Et donc, le client arrive, comment se fait que tu me charges 1 000 piastres sur un terrain de 25 000? Ben, c'est parce que il y a des coûts opérés. T'sais, faut protéger les documents, faut être inscrit, faut payer des frais. Donc, le notaire a des frais fixes et à force de négocier nos tarifs, ça fait en sorte que le notaire a pas de vie. Et je te ramènerai à une autre époque où c'était beaucoup plus profitable d'être notaire et que les gens étaient prêts beaucoup plus à payer parce qu'ils achetaient une maison une fois dans leur vie, il y avait une transaction, c'était fini. Et donc, ils comprenaient la valeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui flippent des maisons 4 ans et donc, l'espèce d'attachement à une maison puis à la compréhension d'amortir un coût fixe sur 25 ans, elle est moins là. Et d'ailleurs, les auditeurs qui ont jamais rencontré de notaire de leur vie, mais qui ont des enfants, qu'est-ce qui se passe? T'sais, on jase.
T'as
7 voyages dans le sud, mais t'as jamais fait un mandat d'inaptitude.
OK, c'est des documents légaux, en fait.
Ben oui, c'est important, imagine. Là. Mettons, je te donne une situation catastrophe.
Vas-y.
OK. Tu fais des enfants avec quelqu'un, tu te sépares, tu gères pas ton testament, tu comprends. Puis là, là tu meurs. Oui, t'es débranché sur la machine. Puis là, faut décider, est-ce qu'on te débranche ou non? Puis là, t'as pas mis tes papiers à jour, t'as pas rencontré ton notaire. Qui va décider? Là, il y a des enjeux financiers là-dedans. Ça prend quelqu'un de confiance quand même. Si tu demeures inapte à gérer tes affaires, faut que tu nommes quelqu'un. Et c'est pas parce qu'il fait partie de ta famille que c'est une personne qui est apte à gérer tes affaires. Alors, le notaire, c'est fou comment c'est important. Et je vais me porter à la défense des notaires. D'ailleurs, il y en a qui veulent se syndiquer présentement tellement qu'ils doivent demander s'arranger pour dire « il y a un prix minimum à ce qu'on fait ». Et le client a beau être roi, à un moment donné, si on veut avoir un service professionnel avec une protection légale, il y a un prix. Et ce qui est plate, c'est qu'on est prêt à payer 2000$ à un plombier pour une journée de travail avec son helper.
Mais le notaire, il fait suer à payer.
Le notaire, non. Ouais. Parce c'est que c'est virtuel. Tu sais, le légal dans notre tête, la protection, on a de la difficulté à attribuer une valeur à ça parce qu'on regarde juste qu'est-ce qu'on a dans nos mains. C'est comme l'assurance. Les gens veulent pas s'assurer. Ils disent, par exemple, si je meurs pas, ouais, mais t'as une couverture virtuelle. C'est comme des placements.
Mais t'sais, qui informe, Pierre-Yves, les nouveaux parents, mettons, que ça leur prend tel type de document, tel type de document? Okay. Y a-tu?
Quand t'es nouveau parent.
Ouais.
Il y a une chose qui arrive. Bon, tu t'en vas au salon du parent. Je sais pas d'où.
Le salon de la maternité.
Il y a un salon de la maternité et là, tu te fais coincer. Alors là, le chat nouveau parent, vous allez au salon de la maternité ou quelque chose d'équivalent. Et puis là, vous remplissez plein de concours. Et puis là, vous les gagnez toutes. Hein, c'est drôle, ça? Mm-hmm. Là, t'as des services financiers, tu gagnes une poussette, tu gagnes plein d'affaires. Évidemment, tu gagnes toutes plein d'affaires en échange de plein de choses. Tu peux même gagner un système d'alarme, mais qui est deux fois le prix, dans le fond. Fait qu'évidemment, t'as pas gagné. Et dans le fond, tout ça sert à avoir tes informations. Et là, tu deviens un marché captif intéressant. Mais le notaire, bon. Tu sais, imagine-tu, tu rencontres des parents. Bonjour, oui. Si vous mourrez demain, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, le segment de l'indice McSween qui m'a généré le plus de difficultés au niveau de la résistance du public.
C'est quoi?
Avec Mini. J'avais dit à Minnie, c'est un enfant, là.
Oui.
J'ai dit, va voir les jeunes dans la rue, puis demande-leur s'ils assurent leurs enfants, puis si jamais ils meurent, qu'est-ce qu'ils font? Hey, tabarouette. J'avoue qu'on s'entend-tu que c'est un peu cru, hein?
Oui.
Là, il y a un gars qui s'ablonde de la poussette. Là, Minnie dit, bonjour, ça va bien? Est-ce que vous avez assuré vos enfants? Non. Qu'est-ce que vous faites s'ils meurent? La dame était scandalisée.
Ah oui? Elle était pas contente?
Elle était pas contente. Mais c'est sûr, écoute. Elle, moi, je suis froid, mais elle, juste de penser à son enfant décédé, c'était comme très, c'était vulgaire. Et son conjoint était pas mal fâché après nous. Et tu sais, ça arrive, tu sais. Tandis que nous, écoute, on parle de réalité. Et le couple n'avait pas de bonne réponse à donner
ben
quand
non,
même.
C'est sûr. Hey, d'ailleurs, pour le mandat d'inaptitude, là, Pierre-Yves, dis-moi donc, sur le fameux document, il faut que tu mettes combien d'options? C'est pas juste une, parce que j'imagine que si l'option ne fonctionne pas, il faut que tu en mettes d'autres à côté.
Non, mais parce que c'est vraiment un document du type, bon, si jamais je deviens inapte. Mettons,
oui, c'est ça. Qui s'occupe de mes enfants?
Qui s'occupe de mes affaires? Après ça, qui va prendre mes enfants? Après ça, est-ce que je veux de l'acharnement thérapeutique? Oui ou non? Est-ce que je veux qu'on donne mes organes?
Mais qui va s'occuper de tes enfants? C'est un méchant contrat, pareil. Ben, mettons, toi, t'en as deux, là.
Ouais, mais moi, j'ai une sœur.
Oui.
Puis j'ai une autre sœur.
Mais il faut que tu les avertisses avant. Tu sais, en passant, je vais vous mettre sur mon mandat.
Imagine-tu? Moi, je mets Jean-Simon. Jean-Simon, yes! Meurt. Mais j'ai un avantage. Et là, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis un parent séparé. Et donc, c'est moins risqué pour moi que pour des parents qui sont encore ensemble.
Oui, c'est vrai.
Parce que des parents qui sont encore ensemble prennent l'avion, s'en vont en voyage, meurent en même temps.
Ouais.
Prennent leur voiture, se font rentrer dedans sur une route qu'ils rencontrent. Le risque que les deux décèdent existe. Mais quand t'es séparé, c'est bizarre à dire, mais pour les enfants, c'est presque une couverture d'assurance parentale.
Ouais,
c'est-à-dire,
en termes de mandat, oui, c'est vrai.
C'est sûr que moi ou mon ex, pour que les deux on meure en même temps, dans un délai où on n'a pas le temps de restructurer nos affaires s'il y en a un des deux qui meurt, c'est quand même, faudrait être malchanceux. Faudrait que j'aille porter les enfants une journée puis une bombe tombe sur les meubles, tu comprends? accident d'auto, mais faudrait que je sois avec mon ex dans l'auto.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est quoi les circonstances?
Vous faites face à face sur l'autoroute, mais bon, c'est peu probable. Ouais.
Non, mais tu comprends?
Ah oui, c'est vrai, les chances sont beaucoup moins là, effectivement.
Ben, tu vois, donc, dans le fond, être séparé, là, je suis en train de vraiment trop rationaliser la chose.
Oui, ben un peu.
Mais
oui.
C'est une couverture naturelle contre votre risque financier pour vos enfants. C'est quand même spécial quand tu y penses. Tu penses qu'être ensemble, ça donne plus de valeur, mais au niveau risque puis assurance, le fait d'être séparé, ça te permet de gérer ton risque de survie.
Ben, sur papier, oui, c'est vrai. Dans les faits, au quotidien, je pense que c'est
puis l'autre affaire, je vais donner un exemple bien simple.
Ouais.
Mettons, tu vis avec ton conjoint puis t'as des enfants puis t'es pas marié. Si puis t'as pas de testament, tu sais. Là, ton conjoint s'en va en auto, il est bien excité, là, s'en va voir une game des Nordiques au Colisée.
Oui.
Puis là, il arrive un accident. Puis là, toi, tu te retrouves quoi? À être copropriétaire de la maison avec ses héritiers à lui qui sont ses enfants.
Oui, c'est vrai.
Et donc, mais là, les enfants, leur besoin, ce n'est pas de payer une maison, c'est d'assurer leur avenir. Et donc, l'espèce de gestionnaire pour la curatelle, c'est le gestionnaire de tes enfants, qui va être quelqu'un de sa famille ou de ta famille, ou peu importe, tu vas devoir lui demander de justifier toutes tes dépenses que tu fais pour l'argent que tu prends des enfants pour eux. Et qui plus est, tes enfants vont peut-être te forcer à vendre la maison parce que si t'es, ouais, mais non, mais pour
vrai,
si t'étais deux personnes qui payaient une maison 300 000, puis là, tu tombes sur un seul salaire, les enfants avec leur héritage n'ont pas à payer la maison à ta place.
Puis arrive pourtant, là-dessus, allez chez le notaire. Allez faire votre mandat, je pense.
Allez chez le notaire. Je pense que je viens de me faire des amis. Je viens de me faire des amis chez le notaire.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Salut. À la semaine prochaine.